Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Médien. Nouvelle piste. Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Piste, le rendez-vous consacré aux grandes mutations du monde professionnel. Alors on dit de la génération Z qu'elle serait impatiente, difficile à fidéliser, réfractaire à l'autorité et particulièrement exigeante envers l'entreprise. Elle voudrait du sens, de la flexibilité, de la reconnaissance, mais sans toujours accepter les contraintes qui accompagnent le travail. Pourtant, une récente enquête menée au Maroc et en France auprès de 2500 jeunes actifs vient nuancer ces idées reçue. La Gen Z ne rejetterait pas le travail, elle chercherait plutôt à travailler autrement. Au Maroc, plus d'un jeune actif sur deux privilégie notamment un modèle hybride, tandis que près de la moitié envisage de travailler pour plusieurs employeurs au cours de sa carrière. Alors sommes-nous face à une véritable rupture générationnelle ou à un nouveau conflit entre des jeunes qui n'acceptent plus certaines règles et des entreprises qui n'ont pas encore complètement changé?
Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Houda Bensedek, dirigeante RH et coach certifiée avec plus de 25 ans d'expérience dans l'accompagnement des transformations humaines et organisationnelles. Elle a exercé des fonctions de DRH au sein de multinationales dans des environnements complexes et en forte transformation. Elle intervient particulièrement sur les enjeux du leadership, de transformation, de développement des compétences, d'engagement et d'accompagnement des individus et des collectifs. Alors, Houda Bensedek, on va commencer par les clichés. Est-ce que cette génération est réellement différente ou est-ce simplement une nouvelle génération de jeunes qui entrent dans le monde du travail et bouscule ses aînés?
Je commencerai par une conviction, Yasmine, c'est que je me méfie un peu des étiquettes générationnelles. On parle beaucoup dernièrement de la Gen Z, comme si tous les jeunes avaient soudainement décidé de ne pas vouloir travailler ou d'être réfractaires, comme tu l'as dit dans ton introduction, réfractaires à l'autorité ou de quitter l'entreprise à moindre désaccord, alors que la réalité est beaucoup plus intéressante. Moi, j'ai eu à gérer dans mes postes précédents des jeunes et beaucoup de la Gen Z, parce que je travaillais dans l'IT, et je trouve que cette génération verbalise beaucoup plus ses besoins que d'autres générations. Mmh. Et donc, un jeune de 23 ans en 2026 arrive dans un monde totalement différent de celui dans lequel nous sommes nous-mêmes entrés après le Covid, avec l'IA, avec les réseaux sociaux. Mmh. La transparence chez cette génération est beaucoup plus grande sur leurs besoins, sur les transformations économiques rapides.
Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce point en particulier, Houda Bensedek, quand vous dites que ces jeunes sont capables de verbaliser beaucoup plus facilement leurs besoins, parce que, en tant que parents aussi, on les accompagne à la maison à plus s'exprimer. Et donc, en fait, ces jeunes arrivent sur le marché du travail, arrivent dans une entreprise qui est faite aussi de managers de notre génération à nous. 80, 70, etc. Et nous, c'était une autre éducation à la maison. On n'exprimait pas nos besoins. Parler de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, ce n'était pas la priorité. Donc, est-ce que finalement, c'est ça ce clash générationnel entre la Gen Z et l'entreprise d'hier et d'aujourd'hui, en fait?
Oui, je pense qu'il y a une partie liée à l'éducation. Mais il y a aussi une partie liée à l'ouverture au monde. Parce qu'aujourd'hui, cette génération, elle est ouverte via les réseaux sociaux, via l'IA, à tout ce qui se passe ailleurs. Et du coup, leurs exigences, leurs attentes, leurs besoins sont beaucoup plus précis, sont beaucoup plus alimentés par la transparence qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Un jeune collaborateur aujourd'hui, dès l'entretien téléphonique, il pose des questions sur le télétravail, sur le salaire, alors que c'était peut-être un tabou pour d'autres générations. Le salaire passait en deuxième priorité. La priorité pour d'autres générations, c'était de décrocher un CDI, de décrocher un poste stable, d'intégrer la banque, d'intégrer une institution publique. Alors qu'aujourd'hui, cette génération, elle connaît très bien le marché, elle connaît très bien le secteur où elle veut travailler. Elle va aussi s'ouvrir à d'autres besoins pour lesquels notre génération ou d'autres générations antérieures n'y pensait pas. Aujourd'hui, par exemple, un engagement social, sociétal ou environnemental ne faisait pas partie de notre liste de courses quand on lançait une recherche d'emploi.
Mmh. Et aujourd'hui, la RSE, le positionnement RSE de l'entreprise est important dans la recherche de ces jeunes ?
Oui, ils posent des questions. Ils posent des questions s'ils peuvent intervenir dans le cadre d'associations, être mentor, être référent. Voilà, le télétravail pour réduire la consommation d'empreintes carbone, etc. Donc, ça peut être abordé lors d'un entretien téléphonique au-delà du salaire. Mmh. Et donc, un jeune candidat ou collaborateur peut aujourd'hui comparer très facilement tous ces besoins, le salaire, les cultures d'entreprise, les opportunités professionnelles, les pratiques managériales, les possibilités d'évolution en amont, lors de l'entretien d'embauche, avant même d'intégrer l'entreprise.
C'est un double entretien d'embauche, en fait.
Exactement.
Dans les deux sens.
Exactement. Et la deuxième rupture que je vois, c'est le choix. Il se considère davantage comme acteur dans son parcours qu'il subit une offre ou bien l'employeur l'appelle pour faire partie d'une liste de candidats. Et je pense aussi que la troisième, c'est la réciprocité.
C'est-à-dire
la question qui se pose aujourd'hui n'est plus uniquement qu'est-ce que je dois apporter à l'entreprise. C'est une question qui devient qu'est-ce que cette entreprise va m'apporter dans ma carrière, pour mes compétences, pour mon expérience et en reconnaissance et en qualité de vie. C'est ça les trois ruptures que je vois pour cette génération.
Alors,
donc nous sommes passés d'une logique d'appartenance à une logique de réciprocité.
Oui. Alors, est-ce que quand on passe à une logique de réciprocité, on diminue le sentiment d'appartenance ? Et on sait combien, justement, la culture d'entreprise, la distillation de la culture d'entreprise est importante dans les multinationales, etc. C'est ce qui crée ce ciment, ce socle entre les différents individus. Est-ce que cette génération, elle est dans la réciprocité et donc finalement, aussi, le mindset des grandes entreprises, des grands groupes et des plus petits, des PME aussi, ne devrait plus s'articuler autour de l'esprit famille, mais de qu'est-ce que je peux apporter à mes collaborateurs ?
Oui, justement, c'est que pour les entreprises, elles doivent adapter leur offre et leur promesse employeur par rapport à cette génération. Et donc, dans la réciprocité que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, je ne cherche pas un candidat pour remplir un poste. Qu'est-ce que je lui apporte aussi comme promesse employeur ? Et ça doit être identifié dans la culture et dans les valeurs de l'entreprise qui mettrait cet employé ou ce collaborateur au centre de ses réflexions stratégiques. Parce que sinon, la rupture serait qu'on aurait beaucoup de départs, beaucoup de turnover. Et donc, ce qu'on entend beaucoup dire dans cette génération, c'est qu'elle cherche du sens. Et c'est vrai. C'est vrai, mais il ne faut pas surtout en conclure que l'argent n'est pas important. Ce que ces jeunes veulent être correctement rémunérés, comprendre à quoi ils contribuent, préserver une qualité de vie acceptable, et en parallèle, bien sûr, des conditions financières et l'évolution de carrière.
Alors, parmi tout ce que l'on dit de la Gen Z, quelle est l'idée reçue la plus injuste, Houda Mansdaq?
Une idée que j'ai entendue lors d'une présentation, d'une enquête dernièrement, c'est que cette génération refuse l'autorité. Je pense que cette idée est fausse. Elle demande davantage à l'autorité de se légitimer. Et je pense que c'est ça ce qu'elle cherche. Elle cherche dans sa relation avec son manager, une reconnaissance, un sens et des orientations claires et de la transparence.
Alors,
elle attend davantage du manager de l'accompagner, de développer ses compétences, de l'exemplarité, de la cohérence, de la transparence, du feedback. Elle veut comprendre le pourquoi du comment avant de comprendre sa fiche de poste.
Alors, moi, quand vous décrivez ce manager, le mot qui me vient, l'image qui me vient en tête, c'est celle du mentor.
Oui. Et du coach aussi, le manager coach. Aujourd'hui, on parle de mentor et on parle aussi de manager coach. On ne parle plus de manager qui vient, qui donne la to-do list, qui fait le suivi, qui fait l'évaluation annuelle. Donc, on parle d'un manager coach qui est là, présent, exemplaire, qui donne le sens, qui verbalise les attentes de façon claire, mesurable, et en même temps, qui reconnaît l'apport du collaborateur à l'équipe.
Dans un marché où, justement, l'accès à l'emploi reste difficile, les jeunes ont-ils réellement aujourd'hui, Houda Ben Sadiq, le pouvoir d'imposer ces nouvelles attentes?
Je peux te dire oui, en connaissance de cause, Yasmine, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de publier une offre, de collecter des CV, mais c'est très difficile de fidéliser cette génération. Et donc, il faut avoir une combinaison de propositions de postes, propositions de valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise apporte? Et en même temps, le positionnement du collaborateur dans l'entreprise et comment il contribue à la réalisation de ses objectifs stratégiques.
Alors, justement, vous connaissez très bien le terrain, vous l'accompagnez depuis plus de 25 ans. Est-ce que vous avez déjà eu des jeunes qui vous semblaient non seulement intéressés, mais qui avaient besoin de ce travail et que finalement, compte tenu de l'offre de l'entreprise, de l'offre globale de l'entreprise, finalement décliné le poste?
Oui, on a eu affaire à des jeunes pour lesquels l'offre était intéressante, le job était intéressant, le salaire, le positionnement. On avait travaillé sur une culture d'entreprise vraiment très adaptée à cette génération et que leur décision a pu changer juste sur un point ou deux, par exemple, le télétravail. Nous, on offrait, par exemple, une journée de télétravail alors qu'il y a un autre employeur à salaire équivalent, peut-être pas un positionnement marque employeur équivalent, qui offrait 3 jours de télétravail et que le candidat a décliné l'offre juste pour ce critère qui, pour le candidat, constituait un équilibre vie pro-vie perso.
Alors, il y a 6 ans, avant 2020, on ne parlait pas de télétravail.
Pas du tout.
La Covid est venue ancrer le télétravail comme un acquis dans la tête de la Gen Z.
Oui, mais non seulement un acquis, mais il y en a qui le prennent comme étant une clause contractuelle. Parce qu'il y a des entreprises depuis 2020 qui ont changé leur politique de télétravail en passant de 3 à 2 un jour. Il y en a même qui l'ont supprimé. Enlevé, ouais. Et dans cette adaptation, on a vu au cours de ces six dernières années, des collaborateurs réclamaient le droit à revenir sur l'ancienne politique de télétravail. On a même vu peut-être des syndicats se mobiliser pour récupérer la journée supprimée du télétravail.
Et ça a marché ?
Pour des entreprises qui travaillent beaucoup avec de telles générations, les négociations ont pu aboutir à une revue de politique.
Incroyable. Ça m'impressionne. Alors, Houda, parce que pour ma génération, pour la vôtre, en fait, le télétravail, c'était une exception parce qu'on était face à une pandémie mondiale et sanitaire. Et donc, bref. Alors, l'autre question que j'avais en parallèle de celle-ci, c'est quand on parle de la Gen Z au sein de l'entreprise et comment elle est en train de changer, d'imposer en quelque sorte de nouvelles règles du jeu, les managers, pour la plupart, font partie de la génération d'avant. Alors, d'abord, il y a le mindset. Nous, on a travaillé dans un autre contexte. Et donc, parfois, on peut considérer ces revendications. Quand on n'est pas formé au métier des RH comme vous, quand un manager lambda, justement, peut considérer finalement ses revendications, ses demandes et au quotidien, puisqu'on parle aujourd'hui du manager coach, du manager mentor, etc., peut considérer ça comme étant finalement comme une forme de caprice de la part de ces jeunes. Ok, il y a ça. Il y a aussi l'entreprise qui est elle-même constamment en mutation. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de plan de carrière à 5 ans, à 10 ans. Les compétences changent, on a un maximum de 2 ans pour se renouveler. Donc comment finalement cette entreprise, avec toutes ses mutations et avec son capital humain d'avant la Gen Z, arrive à créer, à collaborer, à trouver cette nouvelle synergie.
Ouais, en fait, c'est une équation qu'il faut vraiment adapter en fonction des besoins de l'entreprise, des besoins générationnels, comme tu dis, Yasmine, entre le manager qui peut-être a une génération ou deux de différence avec le collaborateur, les besoins du collaborateur. Donc aujourd'hui, et ce qu'on a expérimenté, moi, dans mon ancien poste, c'est vraiment une proximité du collaborateur. Et comme tu dis, ce n'est pas des plans de carrière à 3-4 ans. Aujourd'hui, le collaborateur ne demande pas un plan de carrière ou une promotion forcément. Il demande à acquérir de nouvelles compétences chaque année, chaque 6 mois. Et donc aujourd'hui, même le paradigme de la formation lui-même, il a changé. Aujourd'hui, on ne fait plus de formation en salle avec un formateur, avec des sessions de slides à parcourir. Aujourd'hui, par exemple, rien que pour la formation, il faut mettre un open bar, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, de learning. Et ça, c'est une génération qui adore ça. Elle est assoiffée de connaissances, elle est assoiffée d'apprentissage. Il faut mettre à sa disposition des plateformes de e-learning avec plusieurs cours. Il faut les orienter aussi, hein, parce qu'il faut que ces cours et ces e-learning leur apportent quelque chose. Et crois-moi, c'est des personnes qui s'engagent dans des parcours de formation extraordinaires. Et ils sont précoces. Ils veulent tout de suite travailler sur des projets d'IA. Ils veulent faire des certifications sur des nouvelles technologies. Et même s'ils sont sur des postes totalement différents, tu peux trouver un financier, mais qui est en train de suivre un parcours de formation sur une plateforme de e-learning sur l'IA ou sur des dashboards de Power BI, du développement, etc. Ou sur du Java. Et donc, c'est une génération qui est assoiffée d'apprentissage. Et ça, c'est parmi les adaptations que l'entreprise devrait intégrer dans ses plans stratégiques pour accompagner cette génération.
Alors, vous demandez
ça. Parce que ça, il y a aussi être à l'écoute. Il y a des entretiens. Par exemple, nous, on avait mis en place des entretiens de carrière avec des tests psychotechniques ou des tests de positionnement managérial pour donner le fit, trouver le fit sur les postes que le collaborateur pourrait occuper dans les années à venir. Et donc, il se projette et il trouve intéressant d'aller sur ce poste ou ce poste. Et du coup, il sait très bien quelles compétences il doit travailler pour arriver à son poste. Donc, c'est visionnaire. C'est une génération visionnaire.
Visionnaire. Mais alors, justement, cette génération, et avec ses mutations, ses besoins, ce qu'elle impose aussi comme restructuration à l'entreprise, ce qu'elle impose comme investissement également à l'entreprise, est-ce que ça ne crée pas davantage de clivage, de fossé entre la PME et les grands groupes?
Pas forcément. Je pense qu'il faut adapter ces investissements. Les entreprises doivent adapter leurs investissements à ces besoins. Ça ne veut pas dire que ça va forcément coûter cher, mais il va falloir s'adapter et adapter les investissements et les moyens de l'entreprise en fonction des attentes. Parce que finalement, qui fait l'entreprise? C'est son capital humain. Et du coup, si on investit vraiment dans ce capital humain, avec les mêmes moyens qu'on faisait avant. L'exemple que je t'ai donné sur la formation, Yasmine, je peux te dire que la formation présentielle coûtait plus cher que la formation e-learning.
D'accord.
Alors que la formation e-learning, elle peut toucher en cible tous les collaborateurs, alors que la présentielle, il fallait faire des compromis sur l'ancienneté, sur les besoins, pour optimiser les coûts de la formation en salle. Alors que pour le e-learning, on achète des licences. Et donc, pendant longtemps, on dit que cette génération est plus exigeante. Moi, je trouve que cette génération, elle est plus ambitieuse. Elle redéfinit l'ambition. Et du coup, les entreprises doivent adapter leurs moyens, leur ciblage de plusieurs process. J'ai parlé de la formation, mais il y a aussi d'autres process à cette génération.
Alors, beaucoup de questions me viennent en tête au fur et à mesure de vos explications, Houda Mazader. D'abord, cette question, finalement, quand on offre ce catalogue à cette génération Gen Z, est-ce que c'est gage de rétention? Puisqu'on sait que cette génération, ces jeunes ont envie finalement de travailler pour plusieurs employeurs, etc. Mais est-ce qu'en leur offrant ça, on peut les garder, on peut les fidéliser? Est-ce que c'est comme ça qu'on les fidélise? Ou bien, de toutes les manières, ils passent 2-3 ans dans une boîte et ils changent?
Mais écoute, Yassine,
est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui? Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui, justement?
Oui, oui. Il y a de la ça va améliorer la rétention, mais ça va pas annuler les départs. Parce que c'est la loi du marché. Il y a toujours quelque chose qui va intéresser cette génération ailleurs. Donc même si on s'adapte vraiment à tous les besoins et à toutes les attentes de cette génération, elle est ouverte au monde, pas forcément qu'en local. Elle est ouverte aussi à l'étranger. On a assisté à des vagues de départ à l'étranger juste pour aller explorer d'autres cultures, explorer d'autres styles managériaux, aller explorer d'autres horizons internationaux, aller assurer une meilleure qualité de vie, de santé, d'éducation pour leurs enfants, alors qu'ils sont encore jeunes, ils pensent déjà à leurs enfants. Et du coup, on peut améliorer la rétention, mais on va pas annuler les départs.
Alors, pour finir, Houda Mazader, si une PME marocaine souhaite aujourd'hui attirer et fidéliser les jeunes talents sans renoncer, bien sûr, à ses objectifs de performance, quelles sont les trois choses qu'elle devrait changer en priorité?
Alors, moi je parle d'abord d'une marque employeur et d'une promesse employeur. C'est différent. La marque, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, et la promesse, c'est ce que le collaborateur vit à l'intérieur. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un fossé entre ce que l'entreprise affiche au candidat et ce qu'ils vivent à l'intérieur quand ils intègrent l'entreprise. Et donc, il faut avoir une cohérence entre la marque employeur et la promesse employeur pour qu'il n'y ait pas de clivage, pour que les départs ne sont pas précoces et que le collaborateur, quand il intègre, il trouve la réalité de ce qu'on lui a promis au moment de son recrutement. Donc ça, c'est de un. De deux, une culture d'entreprise apprenante, c'est-à-dire une entreprise qui offre un développement des compétences continues du collaborateur. Et trois, une entreprise qui prône la transparence et la fidélisation, avec un mindset managérial exemplaire qui contribue à donner du sens aux tâches du collaborateur. Donc pour moi, c'est les trois principales clés de réussite pour attirer et fidéliser cette génération.
Merci beaucoup, Houda Mazader, d'avoir partagé votre regard avec nous. On retiendra que la Gen Z ne tourne pas le dos au travail. Elle en rediscute les conditions, plus de sens, de flexibilité et de reconnaissance. Il ne s'agit donc peut-être pas de savoir quelle génération a raison, mais de construire un nouveau contrat de confiance entre les jeunes, les managers et les entreprises. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Nouvelles Pistes, le rendez-vous qui explore pour vous les grandes mutations du monde professionnel.